Appel sur l'actualité 33 1 53 92 64 40. Juan Gomez.
C'est la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h en temps universel, 11h heure de Paris. Et durant les 20 prochaines minutes, nous allons prolonger notre débat d'hier sur la campagne électorale aux États-Unis avec évidemment en toile de fond la percée de Barack Obama. Les études d'opinion lui donnent entre 3 et 11 points d'avance. Entre 3 et 11 points d'avance effectivement sur John McCain. Reste à savoir évidemment si le candidat républicain parviendra à renverser la tendance. Il reste encore 26 jours avant l'élection présidentielle et le troisième et dernier face-à-face télévisé est prévu mercredi prochain et ce sera évidemment la dernière grande occasion pour McCain de convaincre les électeurs. Nous allons en parler grâce à vos commentaires, vos réflexions. Vous nous rejoignez 01 53 92 64 40 33 1 53 92 64 40 si vous nous contactez de l'étranger. Et pour lancer le débat, nous accueillons Lamine. Bonjour Lamine.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Paris.
Oui, tout à fait.
Nous vous écoutons.
Oui, en fait, moi, ce serait plutôt concernant la perception qu'ont les Noirs en Afrique et en France en général concernant Obama. Alors, quand il sera élu président, qu'est-ce que ça va changer pour eux? Il faut voir que lors des conventions démocrates, Obama a d'abord dit en premier qu'il a invité davantage de droits et des règles démocratiques à l'adresse des dirigeants africains. C'est-à-dire, pour lui, il faut que les dirigeants africains prennent d'abord en compte le soin de créer un environnement juridique non corrompu et transparent. Ceci ne vaut certainement pas une profession de foi à l'endroit de la classe dirigeante africaine, mais il appelle davantage à ce qu'il y ait un peu plus de démocratie et d'efforts de la part des politiques africains.
Mais vous pensez vraiment qu'une victoire de Barack Obama peut changer quelque chose dans les relations entre la Maison-Blanche et le continent africain et de façon plus globale dans les relations Nord-Sud?
Non, il faut surtout pas se tromper parce que Obama n'a voulu justement pas que le discours qu'il était en train de faire pendant la campagne électorale aux États-Unis qu'il soit considéré comme le représentant de l'Afrique. Il n'a jamais dit d'ailleurs qu'il était le candidat de l'Afrique. Hein. Justement, il voulait éviter qu'il soit communautarisé, même si au niveau des réseaux sociaux de type Facebook, My Black Planet, etc., tout ça se sont réunis pour dire que Obama c'est le candidat qu'il faut soutenir. Il faut quand même pas aussi perdre de vue que la communauté noire aux États-Unis n'est pas aussi importante que ça. C'est-à-dire la communauté qui va prendre celle qui va dans les années qui viennent, la communauté qui sera la plus importante, ce sera plutôt la communauté latino et hispanique, mais pas du tout les Noirs.
Hein, oui, mais enfin, les Noirs américains ont un poids électoral incontestable et indéniable aujourd'hui, Lamine. Alors vous avez ce point de vue, vous avez du recul effectivement par rapport à Barack Obama en cas de victoire et sur les conséquences que cela peut avoir dans les relations avec le continent africain. Je voudrais qu'on accueille Sakora qu'on a écouté vraiment quelques secondes hier en fin d'émission. Bonjour Sakora.
Bonjour Johan.
Voilà, je vous avais promis qu'on vous rappellerait, on vous rappelle ce matin, vous êtes au Sénégal, à Richard Toll très exactement, et vous nous disiez hier, mais vous n'avez pas eu le temps de développer, que pour vous, Barack Obama, il incarnait l'espoir pour tous les pays du Sud.
Oui, effectivement, il va incarner l'espoir pour les pays du Sud, parce que ce sera la fin d'une vision de l'administration Bush, une vision manichéenne du monde, et ce sera une approche aussi plutôt multilatérale. Les gens auront plus de concertation avec les autres États, et il y aura une approche plutôt concertée en matière à laquelle de gestion des crises. Alors vous imaginez avec la vision de Bush qui avait créé des rock states, des états voyous, avec un Obama qui est né à Hawaï, qui a grandi en Indonésie, d'un père kenyan. Donc il ne peut pas y avoir cette vision étriquée américano-centriste, yankee.
Mais pourquoi c'est si important que ça, que demain, quand je dis demain, ce sera à partir du mois de janvier, un Afro-américain soit à la Maison-Blanche?
Mais d'abord, il y a un problème qui se pose. Moi, je ne crois pas que Obama n'est pas un Afro-Américain. Obama est un Américain. Je vais m'expliquer. Les Afro-Américains sont les descendants d'esclaves qui sont partis aux États-Unis. Obama, c'est le rêve américain. C'est un immigré, c'est un fils d'immigré, certes noir, avec une américaine. Mais par contre, les Afro-Américains, ce sont la seule composante de la population américaine qui ne participe pas au rêve américain. Qui ne sont pas partis en Amérique avec un rêve. Obama, son père, est parti en Amérique avec un rêve. Son père était un petit berger kenyan qui a fait des études en économétrie et qui a épousé une femme du Canada.
Père qui a pu partir aux États-Unis grâce à une bourse. Hein. C'est pour ça qu'il a pu suivre des études aux États-Unis.
Lui, Obama, n'a pas le problème de Malcolm X. Il a un nom. il s'appelle Obama.
Ouais. La mine à Paris, vous partagez l'approche de Sacora qui est au Sénégal?
C'est ce que Sacora vient de dire, parce qu'Obama, il a toujours, il a jamais dit qu'il était africain. Cependant, ce qu'il vient de dire, Obama, suscite quand même l'espoir et l'espérance de toute la race noire, hein. Et c'est suite justement à cause de ça que tous les Noirs et une partie de la population blanche votent pour Obama. Parce que ne serait-ce que pour les jeunes aux États-Unis qui se reflètent ou qui s'identifient à travers les chanteurs, les rappeurs, etc. Uniquement le fait de voir qu'il y a demain quelqu'un qui a dit « Yes, we can » en étant le premier parmi les Américains, c'est-à-dire le président des États-Unis, vous imaginez un peu l'élan que ça peut susciter au niveau de ces jeunes qui sont dans ces quartiers défavorisés.
Ouais. Merci à tous les deux d'avoir lancé le débat. Lamine à Paris, Sacora, Richard Toll au Sénégal, 01 53 92 64 40. L'Aziz, bonjour.
Oui, bonjour.
L'Aziz, vous êtes à New York. Alors, vous nous envoyez régulièrement des courriers électroniques justement pour commenter la campagne électorale aux États-Unis. On vous passe rarement à l'antenne parce qu'il faut bien donner la parole un peu à tout le monde. On vous a quand même rappelé, puisque vous avez suivi, vous, le débat d'avant-hier, et vous vivez, vous avez le sentiment de vivre des moments importants dans l'histoire des États-Unis actuellement.
Effectivement, oui. C'est vraiment une élection très importante, d'abord pour les États-Unis, parce que actuellement les États-Unis se retrouvent dans une anxiété par rapport à l'économie et par rapport aux guerres qui se poursuivent en Afghanistan et en Irak. Ça fait en sorte que tout le monde est braqué sur les élections pour déterminer quelle sera la suite. Mmh. Et on se rend compte que les deux candidats ont deux perspectives différentes. Pendant que McCain continue à estimer qu'il aura la victoire en Afghanistan et en Irak, il se peut que la répercussion de la guerre en Irak et en Afghanistan ait un impact très très important dans l'économie américaine, ce qui fait que les Américains se rendent compte que ça sera beaucoup plus facile de gérer le problème domestique si on fait des retraits des troupes, n'est-ce pas, que ce soit en Irak ou en Afghanistan. Et le général Patriot est en train d'adopter cette position, ce qui a été la position de Barack Obama durant le dernier débat. Ça fait en sorte que Obama se retrouve un peu comme un pragmatique, pendant que McCain est beaucoup plus idéaliste en estimant que c'est la victoire en Irak ou bien en Afghanistan qui pourra lui donner les élections ici.
En tout cas, la priorité aujourd'hui des Américains, c'est évidemment l'économie, la sécurité, mais la sécurité économique, la sécurité financière. Vous êtes américain aujourd'hui, l'Aziz, ou pas?
Non, je suis camerounais.
Ah d'accord, donc vous ne pouvez pas voter, vous ne voterez pas.
Non.
Mais malgré tout, vous suivez évidemment de très près ces élections. Restez avec nous puisqu'on a Dorio qui nous a contacté ce matin de bonne heure. Il est à Kinshasa. Bonjour Dorio.
Bonjour Juan.
Vous avez vécu aux États-Unis. En tout cas, vous avez fait une partie de vos études sur place, hein, c'est ça?
Tout à fait. J'ai eu l'occasion d'étudier aux États-Unis pendant pratiquement 5 ans et j'ai eu aussi l'occasion de vivre la première élection de M. Bush. Et pendant mes études d'ingénierie aux États-Unis, plus précisément au Colorado, j'ai eu l'occasion d'avoir des amis, côtoyer des amis américains, qui, à l'époque, franchement, les élections ne représentaient pas beaucoup pour eux. Et par moments, je leur demandais pourquoi est-ce que vous ne vous impliquez pas directement. Et le langage était pratiquement le même. C'est, écoute, que je sois républicain ou démocrate, je ne vois pas en quoi les choses vont changer pour moi. Vivant ici aux États-Unis. Et les choses ont changé. Pourquoi? Parce que j'ai contacté même certains des amis qui, aujourd'hui, je sens, je dirais, beaucoup plus une implication de leur part. Et ils sont franchement intéressés par cette élection. Et je crois que Obama, pour ma part en tout cas, est la meilleure personne, c'est la personne la mieux placée aujourd'hui pour prendre la relève. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, Obama apporte, je crois, quelque chose de nouveau. Et de nouveau, surtout à la classe des jeunes américains qui font aujourd'hui partie de ceux-là qui le supportent le plus.
L'Aziz, à New York, vous partagez le point de vue de Dorio à l'instant. Vous constatez, vous, cet engouement de la jeunesse américaine pour ces élections, contrairement aux précédentes?
Oui, effectivement. Mais le problème, actuellement, c'est la manière dont les électeurs sont enregistrés, parce que à la dernière minute, les jeunes sont parfois un segment de l'électorat très très mobile, parce que ils ne sont pas stables et certains souhaitent qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de leur enregistrement pour les bureaux de vote. Oui. Ce qui fait que j'ai peur qu'à la dernière minute, ils peuvent être empêchés, n'est-ce pas, de voter et ça va créer un problème terrible ici au niveau des résultats. Ça fait en sorte que je suis un peu sceptique par rapport aux résultats parce que les électeurs les plus stables, ce sont ceux-là qui ont des résidences sur place, ce qui fait que on n'est pas tellement sûr de ce qui pourra arriver.
D'accord. Donc vous n'êtes pas convaincu aujourd'hui d'une victoire de Barack Obama. Les jeux ne sont pas faits, vous entendre, l'Aziz. Merci, bonne journée, enfin bonne fin de nuit surtout à New York. Dorio, merci de ce témoignage très intéressant de Kinshasa. 33-1-53-92-64-40. Nous commentons ensemble la campagne électorale aux États-Unis. Djibril, bonjour.
Oui, bonjour. Hein.
Vous nous appelez de Baltimore.
Tout à fait, très j'appelle bien. De Baltimore. Oui, allez-y.
Ben non, allez-y vous, on vous écoute, oui. Évidemment, Djibril. Soyez le bienvenu.
Oui,
hein.
J'appelle de Baltimore. En fait, c'est pour vous dire que moi, j'étais volontaire dans la campagne. J'étais à Philadelphie il y a 10 jours, ouais. En tant que volontaire pour enregistrer justement les électeurs. Parce que vous savez, les Noirs ici, souvent, ils sont sur les listes. Ils ont une carte pour aller voter, mais ils ne vont pas aller voter. Donc, c'est ce qu'on craint ici, c'est faire motiver... mobiliser les gens à aller voter, justement. Donc, voilà.
Et vous êtes volontaire pour un des deux candidats ou c'est volontaire
pour
sur
Obama.
Pour Obama. Donc vous démarchez, vous allez chez les gens, vous frappez à leur porte pour leur dire allez vous inscrire sur les listes électorales et votez Barack Obama.
Tout à fait. Donc on arrive dans un quartier dur où les gens, justement, sont inscrits ou ne sont pas inscrits. On leur demande est-ce que vous êtes démocrate, est-ce que vous êtes républicain. Est-ce que l'élection vous passionne? Est-ce que vous êtes, vous sentez ce mouvement? C'est l'histoire. Mm-hmm. Vous devrez faire partie donc de ce qui se passe. Donc on les motive à aller à voter. S'ils sont pas encore sur la liste, eh bien on leur donne un stylo et puis on les enregistre.
Ouais.
Et puis on ramène tout donc au quartier général de Obama dans la ville, en fait.
Ouais, donc vous êtes pro Barack Obama. Est-ce que vous pensez malgré tout que John McCain peut renverser la tendance dans les prochains jours?
Je crois pas. En fait, il y a des rumeurs. Hein, McCain est en train de faire une campagne qui est très sale. Il attaque le caractère personnel, si vous voulez, de Barack.
Mais ça s'est pas vraiment senti. Ça s'est senti dans les propos de Sarah Pelling, effectivement, le week-end dernier. Mais ça s'est pas vraiment senti lors du deuxième face-à-face mardi soir à la télévision.
Absolument. Parce que, vous savez, avant les débats, les gens n'étaient pas sûrs. Est-ce que Barack peut rassurer l'Amérique? Mais après les deux débats, les gens ont compris que, justement, que Barack est l'homme de la situation parce que la situation économique se détériore chaque jour. Et McCain n'est rien d'autre que ce que Bush a présenté pendant 8 ans. Donc, nous, en fait, l'Amérique veut une autre vision. Le monde change.
Ouais.
Donc, ils veulent une personnalité à la stature de Barack, en fait.
Bon, on verra ça, évidemment, début novembre. Merci, Djibril, d'écouter RFI à Baltimore. Quelle heure est-il à Baltimore?
Il doit être...
4h54 minutes très précisément. Voilà, merci à vous, bonne journée, merci de votre fidélité. Raïssa, bonjour.
Alors, bonjour Juan.
Bienvenue Raïssa, vous nous appelez du Tchad, vous êtes dans la capitale à N'Djamena. Nous vous écoutons.
Ah oui, c'est cela.
Oui, nous vous écoutons Raïssa.
Je voudrais féliciter des gens comme Djibril à Baltimore qui mobilisent les Américains pour aller voter contre Obama. Puisque je crois que c'est une chance qu'il raterait s'il choisisse McCain, quelqu'un qui n'a pas de notion en économie. Et à l'heure actuelle, avec la crise économique mondiale et la récession, un économiste sera l'homme qu'il faut pour les États-Unis.
Mmh. Donc on a du mal à trouver dans vos commentaires et vos réflexions des gens qui soutiennent quand même John McCain. Pourquoi cette unanimité, selon vous, en tout cas dans les réactions que nous avons, pour Barack Obama? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, Raïssa?
Lorsque vous suivez les débats entre les deux candidats, McCain et Obama, vous constatez que l'autre, Obama, il a des notions en politique étrangère comme américaine, en économie et en diplomatie. Il s'y connaît. McCain n'a aucune proposition. Vous avez suivi les débats. hier à la télévision, il n'a fait aucune proposition concrète. On s'attendait à quelque chose de grandiose puisqu'il nous a dit qu'il va nous démasquer le vrai Obama. Il va montrer jusqu'à la fin du débat. Il ne nous a pas montré ce qu'il voulait nous montrer. Et à la fin, son adversaire lui tend la main. Il refuse de tendre.
C'est vrai qu'à un moment, Barack Obama, à la fin du débat, il s'est dirigé vers John McCain et John McCain lui a un peu tourné le dos et finalement Barack Obama s'est trouvé embarrassé. Enfin, il a eu l'occasion à ce moment-là de serrer la main, il me semble, de l'épouse de John McCain, qui est bon, ravissante. Donc voilà. Mais c'est vrai que vous êtes très observatrice. Hein. Merci beaucoup, Raïssa. Bonne journée à Djamena. Qui avons-nous? Gaston, peut-être. Il y a beaucoup d'appels. Gaston à Libreville. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne. Nous vous écoutons.
Oui, je disais donc pour nous au Gabon, Barack Obama incarne déjà une image pondérée, une image d'homme de paix. Et vous savez qu'aujourd'hui, effectivement, avec la récession économique, nous pensons qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter le langage des va-t-en-guerre. Nous préférons le langage de l'économie, de la personne qui pense à l'évolution économique, à la révolution économique.
En même temps, Gaston, excusez-moi, mais vous ne pouvez pas faire autrement que d'aborder les questions économiques ces jours-ci. Il y a cette crise financière qui était à deux doigts de faire chuter Wall Street. Il est normal que la question économique domine le débat et que, évidemment, la sécurité du pays et notamment la guerre en Irak soit placée en troisième ou quatrième priorité des électeurs.
Oui, mais de toute façon, on ne peut pas ne pas parler de la guerre en Irak. C'est pourquoi je vous parlais des va-t-en-guerre, que le monde aujourd'hui n'a plus besoin des va-t-en-guerre. Le monde aujourd'hui a besoin de responsables, de présidents, si vous parlez du président, qui parle économie mondiale. Hein, il n'est plus question qu'on parle de guerre. Parce que nous, au Gabon, par exemple, nous préférons parler de paix et de l'économie.
Bien.
On ne peut pas aujourd'hui mettre la guerre avant l'économie.
Merci Gaston.
Voilà donc très bien. Ce que nous représente Obama.
Bonne journée à Libreville. Merci de nous écouter au Gabon. Antoine, bonjour. Allô Antoine?
Antoine, oui, Antoine, bonjour. Ah,
voilà, bien, bonjour. J'ai cru qu'on vous avait perdu. Vous nous appelez de Banga, au Cameroun, hein, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Nous vous écoutons, Antoine.
Oui, bon, là, je voulais parler justement des forces qui font la percée de Barack Obama aujourd'hui. Mm-hmm. C'est que depuis les primaires jusqu'à ce jour, de plus en plus Barack Obama apparaît comme cet homme providentiel que les Américains attendaient pour donner une autre forme à la gestion de leurs affaires politiques. C'est pour ça que même dans les débats qui ont déjà eu lieu, on se rend compte que dans ses réponses, Barack est plus direct aux préoccupations des quotidiennes des Américains, alors que c'est pas la même chose pour McCain. Mm-hmm. McCain a des difficultés pour s'exprimer, il ne peut pas tout dire parce que si McCain dit tout, il va enfoncer Bush, qui a déjà un mauvais bilan, et lui il est le candidat des Républicains, et aujourd'hui ce qui arrive à l'Amérique comme la crise financière, ça part du bilan de Bush.
Mm-hmm.
Et tout ça constitue, avec une poussée naturelle, bien entendu, de la lancée de Barack Obama.
On verra si cette lancée persiste ou pas. Il y a ce fameux troisième et dernier débat mercredi prochain. Il reste encore 4 semaines, je vous le disais tout à l'heure. Merci à vous tous de l'intérêt que vous portez à l'émission. Vous avez été encore une fois très nombreux à souhaiter vous exprimer. On aura l'occasion d'y revenir et de commenter ensemble la campagne électorale américaine. Demain, nous serons vendredi. Vous connaissez le principe. Vous réagirez à l'actualité de votre choix. Tous les sujets nous intéressent, tous ceux qui vous ont marqué dans l'actualité française, internationale ou africaine de cette semaine. 01 53 92 64 40 33 1 53 92 64 40. Si vous souhaitez donc vous inscrire pour la libre antenne, nous attendons également vos questions à la rédaction. À suivre dans 10 minutes, juste après le journal Priorité Santé. Et ce matin, Claire Hédon reçoit le prix Nobel de médecine 2008, Françoise Barré-Sinoussi, récompensée évidemment cette semaine avec le professeur Montagnier pour leur découverte du virus du sida. Ce sera juste après le journal à partir de 9h10 en temps universel. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Très bonne journée à tous et à demain.